Mola, archives sonores.
Sergent d'Ormesson, je voudrais vous dire avant toute chose à quel point je suis heureux de vous revoir, mais vous constaterez que je ne suis pas le seul.
Ben, je suis heureux de vous féliciter. Je vois que vous êtes très populaire à Bordeaux, mon cher Jean-Marie, comme disait le général de Gaulle à Massu dans d'autres circonstances.
Alors, nous allons parler ce soir, tous les deux, et puis avec le nombreux public bordelais qui est là, nous allons parler de ce dernier livre, qui n'est pas un roman. Nous avons eu souvent l'occasion de converser tous les deux, et ici même notamment, mais il s'agissait le plus souvent de parler de vos romans. Cette fois, en apparence en tout cas, n'est-ce pas ? Cet ouvrage n'est pas une fiction, il s'appelle « Une autre histoire de la littérature française ». J'aimerais donc avant toute chose vous nous expliquiez ce qui vous a conduit à rédiger une histoire de la littérature française et en quoi cette histoire est une autre histoire.
D'abord, mon cher Jean-Marie, je voudrais vous remercier de votre présence. Ce n'est pas la première fois que vous m'accueillez. Je voudrais vous dire que je vous suis très reconnaissant, au milieu de tout ce que vous avez à faire, de cet accueil que vous me réservez toujours avec tant d'amitié. Ensuite, pour répondre à votre question, je dirais que ce qui m'a poussé, et c'est la vérité, on m'accuse quelquefois de fausse modestie, c'est la vérité, ce qui m'a poussé à écrire cette histoire de la littérature française, c'est mon ignorance. Ce n'est pas le savoir que j'essaye de dispenser du haut de ma grandeur à ceux qui n'en ont pas. C'est mon ignorance qui m'a inquiété. Je me suis dit que je m'intéressais, et d'ailleurs de plus en plus, à la littérature, et je vois que vous êtes nombreux, car c'est pour Racine et Stendhal et Proust que vous êtes ici. Et je me suis dit que finalement, je connaissais peut-être un écrivain sur tous ceux dont il m'arrivait de parler, et c'est Chateaubriand. Je connais un peu Chateaubriand. Si vous me demandez, mon cher Jean-Marie, ce que j'ai fait en été 81 ou au printemps 1972, il faut que je réfléchisse un peu, et vous aussi, je pense, et vous aussi. Si vous me demandez ce qu'a fait Chateaubriand en été 1817, je peux vous le dire tout de suite. Ou au printemps, dans le fameux printemps 1829, je peux vous répondre jour par jour et quelquefois heure par heure. Mais sur Boileau ou sur Bossuet, je ne savais presque rien. Et je me suis dit que ne savoir presque rien sur Boileau et Bossuet, c'était un peu inquiétant sur quelqu'un qui prétendait s'insérer, si peu que ce soit, dans la littérature française. Et donc, j'ai essayé de faire une espèce de tour du propriétaire ou une espèce d'état des lieux. Et c'est véritablement le fait que je ne connaissais pas bien la littérature qui m'a incité à écrire ce petit livre. Et il y a évidemment deux préoccupations qui m'ont guidé. La première, c'est le plaisir de lire. Je crois que lire est un immense plaisir. Je pense que c'est d'ailleurs bien autre chose. Quelquefois, on me dit, alors, la littérature pour vous, c'est le plaisir. Oui, bien sûr, la littérature, pour moi, c'est le plaisir. Il y a d'autres plaisirs, d'ailleurs. Le ski est un très grand plaisir. Un bon déjeuner à Bordeaux est un très grand plaisir. Il y a beaucoup d'autres plaisirs. Nous ne les énumérerons pas ici, si vous le permettez. Et aussi, la littérature est bien autre chose qu'un plaisir. Et ce serait la diminuer beaucoup que de n'en faire qu'un plaisir. Mais c'est un plaisir. Donc c'est la première préoccupation qui m'a guidé, et la seconde, je l'avoue tout de suite, c'est une préoccupation, je dirais presque didactique et presque pédagogique. Je pense que pour profiter pleinement de la littérature française, il faut avoir un certain nombre d'informations. Il y a des gens qui vous dispensent très bien cette information. Ce sont les universitaires, et je dois vous dire que j'ai une grande admiration pour les universitaires. Mais il m'a semblé quelquefois que il y avait un côté un peu solennel, un peu poussiéreux, un peu conformiste dans l'enseignement de la littérature et j'ai essayé de donner un coup de jeune à tout ça. Et voilà pourquoi j'ai appelé ce livre « Une autre histoire de la littérature française ».
Alors, il y a aussi, semble-t-il, dans l'étiologie, la genèse, je ne sais pas comment il faut dire, de ce livre, quelque chose que vous n'avez pas évoqué, je ne sais pas si c'est délibéré, c'est une série d'émissions télévisées consacrées précisément à la littérature, émissions qui existent depuis un an ou un an et demi, je ne sais plus, et où vous conversez avec Olivier Barrault à propos des grands écrivains de la littérature. Quel rôle ces émissions télévisées ont-elles joué dans l'élaboration, l'idée peut-être, et dans l'élaboration en tout cas de ce livre ?
Et un rôle décisif, et que je me garderai bien de négliger, l'occasion m'a été donnée par cette série d'émissions sur la cinquième chaîne, qui continue d'ailleurs en ce moment, et que je fais avec Olivier Barrault. Tout le monde connaît ici, je pense, Olivier Barrault, qui présente un livre un jour, tous les jours, sur la troisième chaîne, et avec qui j'ai fait cette série de portrait en 15 minutes d'un écrivain français. Et c'est ce qui m'a donné, ou a donné à mon éditeur, que je salue ici, Neil, l'idée de réunir en un volume ces portraits d'écrivains. En un volume, je dirais plutôt probablement en deux volumes. On m'a reproché l'absence de certains grands auteurs dans ce volume. Naturellement, je ne pouvais pas faire tenir toute la littérature française en un volume. Il me faut au moins deux volumes. Alors, je pouvais faire un premier volume des origines au classicisme, un deuxième volume du romantisme à nos jours. Mais il me semblait que je retombais aussitôt dans ces espèces de cadres préfabriqué que j'essayais de fuir. Donc j'ai fait une première promenade et je ferai une seconde promenade et ce ne seront pas des laissés pour compte. J'admire infiniment Ronsard, La Fontaine, Hugo, Mallarmé, Rimbaud qui ne sont pas dans ce premier volume. Et alors par rapport à la télévision, je voulais dire tout de suite qu'il y a eu une expérience très intéressante, c'est que, bien entendu, je suis extrêmement paresseux. Et je me suis dit, ça va être épatant, je fais cette émission de télévision, on va m'apporter le script de ce que je dis, et on va publier ça, je vais corriger quelques virgules. Eh bien, pas du tout. Ou comme dirait Queneau, la télévision, mon cul. Parce qu'il y a des émissions qui sont réussies, il y en a d'autres qui sont ratées, mais prenons-en une réussie. Ce qu'on m'apportait était impubliable. Impubliable pour une raison très simple, c'est que l'écrit n'est pas l'oral. L'écrit n'est pas l'oral. Et il a fallu réécrire tout ce qui avait été fait. Naturellement, ce qui m'avait servi, c'est les recherches que j'avais faites, mais il a fallu réécrire à peu près tout. La télévision a été l'occasion du livre, mais le livre est évidemment autre chose que la télévision. Un mot pour revenir à quelque chose qu'avec votre subtilité coutumière, vous avez tout de suite vu, vous avez dit « ce n'est pas un livre de fiction, enfin ». Et en effet, il y a peut-être quelque chose qui m'a un peu guidé, c'est qu'il m'a semblé que l'histoire de la littérature en elle-même était une espèce de roman formidable. Et je dirais que l'histoire de la littérature est un roman formidable parce que l'histoire du monde est un roman formidable et que l'histoire de la vie est un roman formidable et que l'histoire de la société est un roman formidable. Et là, peut-être qu'on pourrait imaginer un vague lien. J'ai écrit un livre qui s'appelait « Le Juif errant » qui était peut-être une sorte de roman de l'histoire. J'ai écrit un autre livre qui s'appelait « La douane de mer », qui était peut-être un roman de la vie. Et puis j'ai écrit un troisième livre qui s'appelait « Presque rien sur presque tout », qui était une espèce de roman de l'univers. Et peut-être qu'une autre histoire de la littérature, c'est le roman de la littérature. Et que les personnages de ce roman de la littérature sont les auteurs de la littérature, et que d'une certaine façon, ils se répondent les uns aux autres. Il y a Boileau qui est sérieux, il y a Rimbaud qui est un aventurier, il y a Proust qui est si étonnamment snob, et puis on découvre tout à coup que c'est un génie, il y a Chateaubriand qui, etc. Et vous voyez qu'on pourrait faire une espèce de comédie littéraire dont les héros seraient les auteurs de romans et de tragiques.
Alors, je voudrais qu'on revienne à la question du choix, parce qu'elle est inévitablement importante, et vous disiez qu'on vous reproche ceci, qu'on vous reproche cela. Quand on fait ce genre d'ouvrage, vous le rapprochez vous-même d'ailleurs d'une anthologie, à certains égards, c'est une anthologie. Évidemment, on vous demande toujours pourquoi avez-vous choisi ceci et pourquoi avez-vous laissé de côté cela. Moi, ce qui me frappe, c'est que vous venez d'indiquer, n'est-ce pas, comme critère essentiel de votre choix, votre plaisir. Et vous indiquez dans la préface que si le titre « Mon plaisir en littérature » n'avait pas été pris déjà par Paul Morand, c'est celui que vous auriez vous-même choisi. Alors c'est donc votre plaisir, c'est votre choix. Et vous dites ceci, « J'admire Toulet, Vialat, Queneau, Genet, Pérec, et je les connais un peu. » Or, à part Queneau, ni Toulet, ni Vialat, ni Genet, ni Pérec ne figurent dans le livre. Pourquoi ? Tout en vous assignant comme objectif de satisfaire votre plaisir, l'avez-vous en même temps ce plaisir sacrifié, puisque ces écrivains-là n'y figurent pas?
Ah ben là, la réponse est très simple, parce qu'ils sont dans le prochain volume, et que, évidemment, je ne pouvais pas tirer toutes mes cartouches à la fois. Et je ne voulais justement pas mettre dans le premier volume ceux que j'aimais, et dans le second volume ceux que j'aimais moins. Alors, on a pu me dire, et d'ailleurs, donc je plaide la innocence sur ce point-là, je plaide coupable sur un autre point. On a pu me dire, vous êtes sévère avec l'un ou l'autre de vos auteurs. Par exemple, on m'a reproché d'avoir été sévère pour Voltaire et sévère pour Camus. Je voulais dire tout de suite que tous ces auteurs, ceux du premier volume et ceux du second, je les aime et je les admire tous. Ce qu'il y a avec ces auteurs-là, et c'est pour ça que vous êtes là, c'est que ce sont tous des génies, ou d'immenses talents, et que toutes ces œuvres sont des chefs-d'œuvre. Alors évidemment, bon, Camus, peut-être que j'aime un peu moins La Peste qu'on l'aimait il y a 20 ans. Il me semble que La Peste est une machine un peu théorique. On voit qu'il veut faire passer des idées et ça sent un peu l'huile. Mais j'ai une immense admiration pour Noce, qui est un livre merveilleux, naturellement pour Sisyphe, qui est un livre prodigieux, pour L'Étranger, qui est un roman d'une pureté, d'une force extraordinaire. Voltaire, bon, naturellement, je préfère Chateaubriand. Peut-être aussi que on m'a dit, mais vous dites de Voltaire, il y a un monsieur très aimable, d'ailleurs très gentil, qui m'écrit, qui dit, vous le traitez de superficiel, mais regardez-vous. Oui, bien sûr. Et peut-être que si je suis un peu sévère pour Voltaire, ce n'est pas bien sûr, hélas, que je puisse me comparer au millième de ce qu'il est, mais que quelquefois, on me met dans la même famille que Voltaire, et que ça a été un motif pour moi de dire cette famille-là n'est pas la famille suprême. La famille suprême, c'est évidemment celle de Pascal, celle de Chateaubriand, à mon sens, celle de Flaubert ou celle de Proust. Voltaire, c'est épatant, c'est brillant, c'est intelligent. Ce n'est peut-être pas des abîmes comme chez Pascal et des sommets comme chez Proust.
Je reviens à ça, pardonnez-moi d'être insistant, mais il y a quelque chose...
Je vais enlever ma veste si vous revenez à ça.
Il y a quelque chose qui me paraît un peu paradoxal, ou en tout cas contradictoire. C'est un ouvrage, dites-vous, n'est-ce pas, qui se présente comme une autre histoire de la littérature, une autre histoire. C'est un ouvrage que vous voulez différent de ceux qui existent déjà. Vous prenez, bien entendu, vos distances avec, je ne sais pas, Lagarde et Michard, Castex et Surer et
compagnie.
Excellent,
Manuel.
Oui, et vous dites...
J'y figure.
Vous dites que vous avez l'intention de faire quelque chose d'un peu plus vivant, d'un peu plus jeune, de dépoussiérer tout cela. Et puis, en même temps, et vous venez de nous le confirmer, et ça figure dans la préface, n'est-ce pas, vous ne choisissez que des écrivains qui ont, comme vous dites, subi l'épreuve du feu, c'est-à-dire vous vous en tenez aux chefs-d'œuvre, vous vous en tenez aux écrivains incontestables. Et est-ce que là, quand même, il n'y a pas une frilosité, une absence de risque que vous...
C'est vrai, j'ai tort. J'admire Pascal, quel ennui. J'admire Racine, je n'y peux rien. Et je n'ai pas pu faire l'impasse sur Chateaubriand. Naturellement, j'essaierai dans le second volume peut-être de vous en coller un ou deux qui vous surprendront. Déjà là, je vous ferai remarquer, mon cher confrère, car nous sommes confrères.
Absolument.
Je vous ferai remarquer qu'il y a par exemple Queneau. Je crois que Queneau est un très grand écrivain. J'espère mettre dans le second volume. On me pose souvent la question, quels sont les grands écrivains vivants? C'est une question que vous allez me poser pour moi tout à l'heure et à laquelle, comme toujours, je refuserai de répondre. Mais je pense que nous avons connu un grand écrivain qui est Pérec. Je crois que Pérec est un grand écrivain. Je pense que Toulet, je pense que Vialat sont de grands écrivains. Je ne suis pas tout à fait sûr de ne pas mettre dans le deuxième volume, où il y aura, comme je vous l'ai dit, Hugo, Rousseau, Mallarmé, Rimbaud, Ronsard, qui ne sont pas dans celui-là. Je me demande si je ne mettrais pas un écrivain qui ne brille pas par le style comme Chateaubriand ou Aragon, mais qui, comme Simenon, a inventé un personnage. Et inventer un personnage, c'est déjà beaucoup. Eh bien, c'est Maurice Leblanc. Et vous savez tous qui Maurice Leblanc a inventé, Arsène Lupin. Alors on peut me dire, naturellement, c'est de seconde catégorie, Arsène Lupin. Naturellement que c'est de seconde catégorie. Mais n'empêche que tout le monde connaît Arsène Lupin. Et Arsène Lupin est inventé. Alors c'est déjà pas si mal. Je ne vous dis pas que je lui consacrerai 10 pages, mais peut-être je lui consacrerai 2,5 pages à Arsène Lupin. Et là, on ne pourra plus me dire que j'imite la garde des Michards. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas sacrifier Ronsard, je ne peux pas sacrifier Lautre et Hamon, je ne peux pas sacrifier Vigny et je ne peux pas sacrifier Diderot. Et la preuve, c'est que je peux vous en réciter par cœur parce que j'aime ça et que je crois que ce sont de grands écrivains. Et que je dirais plutôt que c'est la façon de les aborder que j'essaye de renouveler, plus qu'un jeu de massacre qui consisterait, comme le fait un peu Kléber Édens, dont je m'inspire un peu. Kléber Édens est plus partial que moi. D'abord, il est plus politique que moi, alors que je crois que les choix politiques ne jouent pas dans cette histoire de la littérature française. Et ensuite, parce que j'essaye plutôt de découvrir des gens qui mériterait d'être connu, plutôt que je n'abats des gens dont je dirais celui-là ne mérite pas d'être connu. Tous méritent d'être connus, évidemment. Je prononce quelques noms d'auteurs que vous ne connaissez pas et qui sont de grands poètes, que je ne connaissais pas moi non plus. Durand, personne ne connaît Durand au XVIe siècle. Drolincourt au XVIIe siècle. Un jour, je le connaissais par cœur, le sonnet de Drolincourt. Je ne me rappelle plus que le dernier vers. Drolincourt est un pasteur protestant qui écrit des pièces chrétiennes. Et il y a une pièce sur sa mort. Et il dit fait que au moment de la mort, j'entre dans le jour où les saints n'ont que toi pour soleil. Je trouve que c'est un vers admirable. Dans le jour où les saints n'ont que toi pour soleil. Et on voit très bien. Et alors, c'est intéressant parce que dans ce livre, il y a deux choses que je ne fais pas, n'est-ce pas? D'abord, il n'y a pas d'appareil critique, il n'y a pas de mots savants, c'est extraordinairement simple. Et deuxièmement, il n'y a pas de critique de texte. Mais la critique de texte, ce serait bien intéressant de la faire aussi. Et pourquoi est-ce qu'un vers comme « Dans le jour où les saints » non que toi pour soleil. Pourquoi est-ce que c'est aussi beau? Eh ben, je pense qu'il y a beaucoup de raisons. On pourrait... Je vous jure, mon cher Jean-Marie, qu'avec votre aide, on pourrait passer une heure sur dans le jour où les saints n'ont que toi pour soleil. On peut passer une heure là-dessus.
Nous, on s'amuserait beaucoup, mais le public,
ce serait
je sais
épatant.
Pas.
Eh bien, alors, le motif, d'abord, la chose la plus simple, parce que ce sont des monosyllabes et que ce vers de monosyllabes se termine par un mot superbe qui a deux syllabes et qui éclate à la fin. Dans le jour où les saints n'ont que toi pour soleil. C'est magnifique. Alors, toute la littérature, c'est comme ça.
Alors, je vais continuer à vous asticoter un peu, n'est-ce pas, parce que...
Faites, essayez, du moins.
Vous avez les moyens de vous défendre. Vous dites que vous n'avez pas voulu faire quelque chose d'universitaire, surtout. Vous pouvez le dire...
D'abord parce que j'en suis incapable.
Vous pouvez le dire parce que chacun sait que vous êtes agrégé, normalien, etc. Bon. Mais vous n'avez pas voulu faire quelque chose d'universitaire. Vous avez absolument délaissé ce que vous appelez les cadres préfabriqués. Et en même temps, vous distinguez quand même trois époques dans l'histoire de la littérature qui vous paraissent essentielles, c'est-à-dire l'âge classique, le romantisme et puis l'entre-deux-guerres au XXe siècle. Alors, c'est quand même des cadres, ça. C'est quand même des cadres préfabriqués. Et alors, on va vous dire, mais qu'est-ce que vous faites de l'âge baroque? Qu'est-ce que vous faites du symbolisme, etc. Donc, pourquoi en choisir trois et à ce moment-là ne pas prendre le classement qu'on trouve dans la gare des Michards?
Oh, d'abord, le symbolisme, on va cracher dessus un peu. Hein. Le symbolisme, c'est rien du tout. C'est très peu de choses. C'est bien le symbolisme, mais c'est très peu de choses. On pourrait étudier un peu le symbolisme, on verrait que c'est pas grand-chose. On pourrait étudier aussi ce qu'il y a de grand dans le baroque fait partie du classique. Et on verrait des tas de choses comme ça, les précieuses. Eh bien, les précieuses, ce qu'il y a de bien dans les précieuses fait partie du classique. Et en effet, vous ne pouvez pas échapper à ça. Il y a trois grandes périodes dans la littérature française. Et la littérature française date de 1000 ans. Elle date de 1000 ans, et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que nous savons quand elle commence. Elle commence, je peux vous dire l'année, peut-être le mois, peut-être le jour, elle commence en 842 ou 843. Qu'est-ce qui se passe? À cette époque-là, il y a Charlemagne. Charlemagne est couronné empereur en l'an 800, le jour de Noël, à Rome. Et Charlemagne, qu'est-ce qu'il parle, Charlemagne? Qu'est-ce qu'il écrit, Charlemagne? Eh bien, il n'écrit rien du tout parce qu'il ne sait pas écrire. Il n'est pas tout à fait inculte. Il sait naturellement le latin. Il bredouille le latin. Il parle une langue bizarre qui s'appelle... Vous êtes-vous jamais demandé ce que parlait Charlemagne? Eh bien, il parle le francique. Et le francique est une langue pas fameuse, qui est simplement du latin de cuisine. Et quand il meurt, je crois qu'il a un fils qui s'appelle, je crois, détrompez-moi, je peux me tromper. Hein. Il a un fils, je crois, qui s'appelle Louis le Pieux. Et Louis le Pieux a trois fils, qui s'appelle Charles le Chauve, Louis le Germanique et Lothaire. Et entre deux de ces trois-là, je ne sais plus exactement lesquels, il y a un traité qui s'appelle le Serment de Strasbourg, qui dit qu'ils resteront unis. Et ce Serment de Strasbourg, 842, est écrit dans une langue nouvelle, qui est une langue populaire, qui n'est plus le francique, qui est du mauvais latin, qui est la langue que parlent les gens, et qui est le roman. Et cette langue romane apparaît dans un premier texte, qui est le Serment de Strasbourg. Et le traité de Verdun, en 843, qui est capital dans l'histoire de l'Europe, puisque Louis le Germanique obtient tout ce qui est à droite, l'Allemagne, la Pologne, la Hongrie, que toute l'histoire de l'Europe sort de là. Lothaire obtient un truc qui est bien intéressant, qui sera le duché de Bourgogne, qui sera le royaume d'Arles, et qui est ce formidable et magnifique royaume qui va de Bruges à la Méditerranée, n'est-ce pas, en passant par la Bourgogne, l'Alsace, le comtat vénitien, la Provence... Magnifique royaume. Et comment il s'appelle le troisième? Charles le Chauve obtient ce qui est à l'ouest, c'est-à-dire la France, et le traité de Verdun est rédigé en roman. Donc ça, ce sont des textes politiques, et quelques années plus tard, vous avez le premier texte littéraire français qui s'appelle « La Cantilène de Sainte-Eulalie ». Et la cantilène de Sainte-Eulalie, c'est magnifique. On devrait tous la savoir par cœur. C'est pas difficile. Il y a 29 vers. Et ces 29 vers sont en langue romane, c'est-à-dire en français. Plus ou moins en français. Après, vous avez la vie de Saint-Alexis, etc. Et tout découle de ça. Alors, vous avez trois époques magnifiques qui sont stupéfiantes et à qui nous devons presque tout. La première, c'est le classicisme. Le classicisme, disons les choses en gros, s'ouvre triomphalement avec Corneille et se termine avec Voltaire. Et puis, vous avez une deuxième époque magnifique, très différente. Alors évidemment, dans une autre histoire de la littérature, je dis qu'est-ce qui différencie cette deuxième époque de la première ? Eh bien, je dis c'est l'irruption de la météo dans la littérature. Et vous avez déjà reconnu, c'est le romantisme. Et le romantisme s'ouvre avec Rousseau et Chateaubriand et va finir avec, culmine avec Hugo et va finir avec Baudelaire et Flaubert très différemment. Et pourquoi l'irruption de la météo dans la littérature ? Naturellement, c'est une définition un peu comique, il y a un peu de clin d'œil, un paradoxe dans cette définition. Mais je crois qu'elle n'est pas fausse. Jusqu'à Rousseau, vous pouvez lire Corneille, Voltaire, Vauvenargues, La Bruyère. Vous ne savez jamais le temps qu'il fait. Mais si vous lisez Lamartine ou Hugo, mais vous tout le temps, Chateaubriand, Rousseau, tout le temps, il vous parle du temps qu'il fait. D'ailleurs, en général, il fait mauvais. Le vent du nord souffle, emportez-moi, orage désiré, le vent de l'Aquilon, la feuille qui tombe des arbres. Mais c'est gilot pétré dans la littérature française, le romantisme, n'est-ce pas? Et puis, vous avez une troisième époque éblouissante, et les plus âgés de nous l'ont connue, mais c'est la période entre les deux guerres. Et on comprend bien pourquoi la France était puissante. On vous raconte que c'est des histoires de taux d'intérêt, mais n'en croyez rien du tout. C'est parce que la littérature française était puissante. Il n'est pas exclu qu'elle était puissante parce qu'on avait des canonnières. C'est pas exclu et il faudrait étudier le rapport entre les canonnières et la littérature. Mais en tout cas, l'entre-deux-guerres est une période inouïe avec Proust, Valéry, Gide, Aragon, Céline, Saint-Jean-Perse, puis tous les autres. Alors aujourd'hui.
Dites-moi, tout à l'heure, vous disiez que vous avez évité d'utiliser des mots savants. Et effectivement, il n'y en a guère. Il y en a un. Il y en a un dans la préface.
Quelle horreur !
Il y en a un absolument monstrueux dans la préface. Mais je crois que c'est une coquille.
Ah !
Stochastique.
Stochastique, une coquille.
Non, ça existe.
Mais comment ?
Alors, qu'est-ce que c'est stochastique ?
J'ai voulu montrer par un mot que moi aussi je les connaissais, ces mots-là. Que je ne les emploie pas, mais que
c'est
je
pas
les
connais. C'est pas scolastique,
c'est stochastique. Quelqu'un fait du grec ici ? Personne ne fait. Eh bien, stochastique vient du grec quelque chose, okay. Et ça veut dire hasard. Et stochastique, ça veut dire qui est choisi au hasard. Voilà, alors j'ai voulu montrer que je connaissais ça aussi.
Alors, il y a un mot savant, un seul. Pour le reste, effectivement, ça n'est pas du langage savant. Et alors, par exemple, j'ai pas tout lu, naturellement, c'est un gros livre, mais j'ai lu avec attention certains chapitres. Bien sûr, j'ai lu Chateaubriand, parce que j'avais lu avec beaucoup de plaisir et d'admiration « Mon dernier rêve sera pour vous ». Je savais que Chateaubriand, c'est votre auteur, votre grand homme. Et donc, j'ai lu le chapitre sur Chateaubriand. Et alors, j'ai trouvé que c'était, bien sûr, des choses que vous aviez déjà dites dans « Mon dernier rêve sera pour vous », mais sur un ton et dans une langue un peu différente. Ainsi, vous écrivez ceci. « Apologie de la pureté et du mariage chrétien, le génie du christianisme avait été achevé dans le lit d'une jeune maîtresse irrésistible qu'il avait fauchée à son ami Joubert et qui s'appelait Pauline de Beaumont. Elle avait beaucoup contribué au succès de l'ouvrage et quand le succès était venu, il l'avait plaqué pour Delphine de Custine. » Bon. Un peu plus bas...
Hélas, tout ça est vrai.
Un peu plus bas, attendez, on va y aller. Un peu plus bas, vers la fin de l'Empire et les débuts de la Restauration, l'auteur d'Atala, de René, du génie du christianisme, de l'itinéraire et des martyrs, n'est pas très bien barré. n'est pas très bien barré. Bon, si je me reporte après, ou avant, comme on voudra, au chapitre consacré au cardinal de Ré, que j'ai lu aussi, parce que j'admire beaucoup, comme vous, le cardinal de Ré. Et vous dites ceci, destiné à monter degré ou de force sur le trône archiépiscopal de Paris, il avait l'âme la moins ecclésiastique de l'univers. Qu'est-ce qu'il aimait ? L'Antiquité. Et quoi d'autre ? Baiser.
Mais
il me dit quand même, il est académicien. Alors, c'est entendu, il écrit un ouvrage dont il dit qu'il espère que la jeunesse le lira. Est-ce qu'il est utile pour que la jeunesse vous lise de parler ainsi ?
Alors, je répondrais que ce qui m'a dirigé là, ce n'est pas du tout la vaine ambition de choquer. C'est le souci de la vérité. Et cette vérité n'éclate pas toujours. Quand j'ai regardé tous les ouvrages que j'ai pu sur le cardinal de Retz, on explique toujours, au XVIIe siècle bien entendu, au XVIIIe, au XIXe et de nos jours, qu'il aimait la galanterie. Mais il faut savoir que la galanterie, ça veut dire qu'il aimait baiser. Alors on dit ce cardinal est galant, ça veut dire il est très poli avec les dames. Mais c'est pas ça du tout, mon cher Jean-Marie. C'est pas ça du tout. J'énumère la liste des maîtresses du cardinal de Paris que Monseigneur Lustiger, mon confrère, me pardonne. Il est cardinal de Paris et c'est Valmont sur le trône du cardinal de Paris. Et ce type-là n'a que deux ambitions, ou plutôt il en a trois. La première, c'est l'ambition. La deuxième, c'est l'amour, mais au sens le plus strict du mot, n'est-ce pas ? Alors, il faut quand même expliquer les choses. Et les choses s'expliquent quelquefois différemment. Vous savez tous, vous avez tous appris que amoureux chez Racine, ça veut dire qu'on aime une personne qui ne vous aime pas. Et amant, c'est qu'on aime la personne et elle vous aime en retour. Mais il faut être tout à fait clair, la galanterie chez Retz n'a rien à voir avec les jolies façons ou de céder une place assise aux dames. C'est très, très, très différent. Alors, comme il fallait aller vite, que je consacre trois pages au cardinal de Retz, j'ai été au plus bref. Qui en effet vous a éclairé, je vois, très très.
On comprend très bien.
Très sagement. C'est le souci de la vérité.
Alors, justement, tout à l'heure, vous parliez de la manière d'aborder les écrivains. Hein. Vous disiez que vous aviez essayé de les aborder différemment, d'aborder différemment les écrivains. Et les œuvres. Comment, justement, avez-vous, dans l'ensemble de ces textes, abordé ces écrivains et leurs œuvres ? Et peut-être, je compléterai ma question, d'ailleurs, de la façon suivante. Je crois, on me l'a dit, qu'on vous avait reproché de privilégier l'aspect biographique au détriment de l'œuvre. Est-ce que ce reproche vous paraît fondé ?
Je dis dans la préface que Paul Valéry parle à un certain moment d'une histoire de la littérature dont il a rêvé, qui serait magnifique, et qui serait une histoire de la littérature où on ne prononcerait pas un seul mot, un seul nom d'écrivain. Et c'est une idée magnifique, c'est-à-dire ce serait une histoire de la création littéraire. Comment les genres viennent. Par exemple, le roman, qui est si récent, n'est-ce pas, qui peut-être est en train de mourir comme meurent certaines plantes, c'est-à-dire non pas par disparition, mais par exubérance. Le roman meurt non pas parce qu'il n'y en a plus, mais parce qu'il y en a trop. Hein. Et l'histoire des genres littéraires, l'histoire de la création littéraire, l'histoire du génie littéraire, ce serait absolument passionnant. J'ai essayé de faire tout à fait autre chose. J'ai essayé, en effet, d'être beaucoup plus près de l'anecdote. Et sur ce point, je plaide coupable. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de dépoussiérer les choses, d'oublier les images toutes faites qu'on a. Par exemple, il m'a semblé qu'une des plus belles images qu'on pouvait imaginer de la littérature française, nous la connaissons cette image, mais nous ne la voyons pas exactement comme elle l'est. Je me suis dit, en écrivant ce livre, il va falloir se taper un certain nombre de gens qui ne sont pas rigolos, comme Bossuet et comme Boileau. Eh bien, s'il y a quelqu'un que j'admire après cette histoire de la littérature française, c'est Bossuet. lisez Bossuet, c'est magnifique. C'est magnifique. Oh, je ne vais pas vous réciter du Bossuet, tout, je ne vais surtout pas vous réciter Madame se meurt, Madame est morte, parce que ça, c'est les tout faits. Mais par exemple, il dit à un moment donné, il parle à la cour, n'est-ce pas? Et il dit, la cour, c'est la légèreté, c'est la frivolité. Et il leur dit, messieurs, si je parlais ailleurs, je prendrais de cette légèreté. Je prendrais la cour, pour exemple. Mais puisque je parle à la cour, qu'elle se connaisse elle-même. C'est magnifique. C'est magnifique. Et à un autre moment, Bossuet, pour expliquer le rôle de l'orateur sacré, et en voulant faire comprendre que l'orateur sacré ne compte pas, parce qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte, et qu'est-ce que c'est? Mais c'est Dieu, naturellement. Il dit grandeur et misère de l'orateur sacré qui recherche et qui craint non seulement l'approbation de son public, mais même son profit. C'est superbe, n'est-ce pas? Et il ne doit pas, l'approbation ne doit pas aller à l'auteur, il ne doit pas faire comme moi qui dit « Est-ce que je fais bien mon numéro ?» Non, non, non. Il faut que tout aille vers Dieu. Et c'est absolument admirable. Et c'est cette espèce de dépoussiérage, c'est-à-dire de considérer les auteurs comme si on parlait de Rimbaud ou de Lambron, si on faisait un article sur les écrivains d'aujourd'hui. Et l'exemple le plus beau que je puisse trouver, c'est évidemment quatre jeunes gens. Quatre jeunes gens qui doivent avoir entre 25 et 30 ans. Qui sont très amusants, très gais. Évidemment, on peut leur faire des reproches. Ce sont des coureurs et ce sont des ivrognes. Ça, aucun doute. Et où est-ce qu'on les trouve? On les trouve au bistrot. Et dans quel bistrot? Eh bien, dans un bistrot qui s'appelle le Mouton Noir et un autre qui s'appelle la Pomme de Pin. Et ils se fauchent des femmes entre eux et pire, des actrices. Et ces quatre personnages qui se rencontrent régulièrement, eh bien, c'est La Fontaine, Molière, Boileau et Racine. Alors évidemment, si on était entré dans le bistrot au moment où ces quatre-là, encore une fois, des jeunes gens, très brillants, très gais, et qui n'ont de soucis que l'amour de la littérature, et qui attaquent les puissants, eh bien si on avait pu écouter leur conversation, ça aurait été formidable. Alors je ne peux pas vous dire que je rends leur conversation, mais j'essaye au moins de rendre l'image d'un Boileau qui, au lieu d'être un espèce de pion de collège, est un jeune homme très gai, et de rendre l'image de Racine qui, pendant qu'il parle à Molière, est en train de lui faucher quelqu'un que vous connaissez bien, puisque Sophie Marceau l'a interprété pas tellement bien, qui est marquise, n'est-ce pas? Et après, Racine aura des aventures infinies, il sera l'amant de quantité d'actrices comme la Champmêlée. Et bon, alors on peut me dire que ce n'est pas vrai pour Boileau, parce que Boileau, il lui est arrivé un grand malheur, peut-être, pas sûr, mais enfin c'est possible. Quand il était petit, il se promenait comme beaucoup d'enfants, tout nu, hein, et il a été attaqué par un troupeau d'oies. Et vous savez, comme les oies sont méchantes. Et il y a un jar qui lui aurait attrapé. Mais enfin, c'est pas tout à fait sûr. En tout cas, on ne peut rien imaginer de plus gai, de plus jeune et de plus brillant que ces quatre personnages qui sont les fondateurs du classicisme. Et on pourrait dire la même chose du jeune Corneille. Le jeune Corneille avec le Cid, c'est éblouissant, c'est d'une gaieté. Horace et Cinna, c'est un peu l'école. Ne lisez pas tellement Horace et Cinna. C'est rasant, au fond, c'est rasant. Mais lisez le Cid, c'est magnifique. Et Chateaubriand, vous croyez que c'est pas gai, Chateaubriand? C'est des histoires inouïes, les histoires de Chateaubriand. Et si j'emploie ce langage un peu vif, c'est pour rendre tout ce qu'il y avait chez Chateaubriand d'excitant, de vif. J'ai le temps de raconter une brève histoire.
Ah bah oui,
Chateaubriand tombe éperdument amoureux de 20 femmes, n'est-ce pas? Mais en particulier d'une qui est une personne étonnante, qui est Madame de Noailles. À Madame de Noailles, il est arrivé un ennui, c'est que Madame de Noailles était jeune, belle, charmante, et elle est tombée amoureuse d'un garçon jeune, beau, charmant, et elle l'a épousé. Et c'était Monsieur et Madame de Noailles. Et arrive la Révolution, Noailles part pour l'Angleterre, s'exile en Angleterre, émigre en Angleterre, et elle est arrêtée et va en prison. Et elle ne pense qu'à une chose, c'est à retrouver son mari. Robespierre tombe et elle est libérée. Et elle se précipite à Londres retrouver le mari qu'elle aime tant. Et le mari, pendant ce temps-là, est tombé amoureux d'une autre femme. Naturellement, l'autre femme est beaucoup moins bien que sa femme. Elle s'appelle Madame... J'ai oublié son nom. Elle était la maîtresse du prince de Galles. Il la fauche au prince de Galles. Et il était perdument amoureux d'elle. Et Noailles a un ami qui s'appelle Vintimille. Et à Vintimille, Noailles dit, écoute... Tu vas faire la cour à ma femme pour que j'aie le temps de m'occuper de Madame de Fitzherbert, qui a de Madame de Fitzherbert, dont je suis fou. Et Vintimille lui rend ce service et fait semblant d'être amoureux de Madame de Noailles. Qu'est-ce qui se passe, mademoiselle? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Vintimille tombe éperdument amoureux de Madame de Noailles. Qu'est-ce qui se passe, monsieur? C'est que Madame de Noailles, qui trouve Vintimille charmant, se refuse à lui par fidélité à son mari. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et quand vous me dites que l'histoire de la littérature n'est pas un roman, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est que Vintimille, il essaye de tenir, de ne pas manger le morceau. Et à la fin, il craque et il raconte tout à Madame de Noailles. Et Madame de Noailles, ivre de chagrin, se donne à Vintimille en le détestant, en détestant son mari et en détestant tous les hommes. Et Chateaubriand tombe amoureux de Madame de Noailles. Et Madame de Noailles lui dit « Je ne me donnerai à vous » que quand vous aurez fait le tour de l'Europe, parce qu'il va s'incliner sur le tombeau du Christ et faire le pèlerinage chrétien, je ne me donnerai à vous que si vous venez me retrouver à Grenade. Pourquoi est-ce qu'elle lui dit ça? Mais parce qu'elle n'a plus confiance dans les hommes. Et il est absolument impossible de comprendre les mémoires d'outre-tombe et de comprendre le voyage de...
L'itinéraire de Paris
à Jérusalem, si on ne connaît pas cette histoire. Alors vous voyez combien les anecdotes, à condition qu'elles ne soient pas superficielles, mais qu'elles soient un peu profondes, expliquent la littérature française. Et alors, en effet, je crois que Chateaubriand a écrit un certain nombre de chefs-d'œuvre, qu'il a écrit les Mémoires d'outre-tombe, qui sont un chef-d'œuvre irrésistible, et on rit à chaque page, comme dans Proust. Bon, Proust est un auteur comique, n'en doutez pas un instant. D'ailleurs, peut-être aussi que Kafka est un auteur comique. Vialat, qui a traduit Kafka, disait « Comment, vous croyez que ce n'est pas un auteur comique ? » Voilà un garçon qui est en train de se changer en cloporte. Et vous vous rendez compte, il voit tout à coup qu'il se change en cloporte et sa seule préoccupation est qu'il va arriver en retard au bureau. Et vous croyez que ce n'est pas un roman comique? Alors tout ça est extraordinairement comique. Et Chateaubriand a écrit Mémoire d'outre-tombe, a écrit Itinéraire de Paris à Jérusalem, qui est magnifique, a écrit un livre magnifique qui est La vie de Rancé.
Qui n'est pas vraiment comique, La vie de Rancé.
Non, c'est pas comique, mais c'est quand même très amusant. C'est quand même très amusant. Vous vous rappelez le passage sur les lettres d'amour, comme c'est beau?
Non, je me rappelle pas le passage.
Oh, le passage sur les lettres d'amour. Les lettres d'amour commencent, elles sont vives, multipliées, elles racontent tout ce qui se passe dans le jour. On a à peine fini d'en écrire une, qu'on veut en écrire une seconde, on a fini la seconde, qu'on veut écrire la troisième. Il n'y a pas un moment de la journée, pas un pensée de la nuit qu'on ne veut communiquer à celle qu'on aime. Et puis, peu à peu, les lettres se font un peu plus rares. Elles commencent à dire des banalités. Elles sont le j'ai l'honneur d'être de toute aventure sentimentale. Ben, c'est magnifique. Et quand il dit, je me demande si c'est pas dans, je sais pas si c'est la mémoire d'Outre-Ton ou la ville rancée qui a cette formule prodigieuse qui est, il faut être économe de son mépris, étant donné le grand nombre des nécessiteux. Et puis, c'est encore là qu'il y a l'histoire de Rancé, ben, c'est la ville rancée, et Rancé, il lui est arrivé une aventure qui est quand même embêtante. Il était, Rancé était plus ou moins prêtre. Enfin, il était tonsuré, en tout cas. Et il avait une maîtresse qui était d'une beauté stupéfiante, qui s'appelait Madame de Montbazon. Et il part chasser pendant 3 jours. Et dans les 3 jours, pendant qu'il est absent, Madame de Montbazon meurt. Elle attrape peut-être la petite vérole, peut-être la grippe. Elle meurt en 3 jours. Et on lui prépare un cercueil, et le cercueil est trop petit pour elle. Et on est obligé de lui couper la tête, qu'on met sur ses seins, et quand Rancé arrive de sa chasse, il rentre frétillant pour voir sa maîtresse, et pour faire des choses que je ne prononcerai pas, parce qu'on me reprocherait encore. Et il arrive, et il trouve sa maîtresse, la tête coupée dans son cercueil. Et vous savez que Rancé va devenir non pas le fondateur, mais le réformateur de la trappe. On représente toujours Rancé avec une tête de mort à côté de lui, et d'aucuns prétendent que la tête de mort à côté de lui était la tête de mort de Madame de Montbazon.
Je crois que Chateaubriand le dit. Qu'il
je n'en réponds pas. Je crois qu'il l'invente.
Il garda la tête dans un coffret.
Voilà. Et alors, quand on dit, alors je vous dis pas que c'est drôle, que c'est, je vous dis pas que c'est roulant, mais c'est magnifique. Rancé est désespéré et Chateaubriand le montre désespéré. Il dit, il invoquait la nuit et la lune. Il eut toutes les angoisses et toutes les palpitations de l'attente. Madame de Montbazon était allée à l'infidélité éternelle. Voilà ce que c'est que la littérature française.
Je suis un grand admirateur de Proust depuis très très longtemps. Et quand on me disait, mais qu'est-ce que vous aimez dans Proust ? C'est très difficile de dire ce qu'on aime dans Proust. Et je répondais toujours, eh bien, Proust, c'est probablement de toute la littérature française l'écrivain qui me fait le plus rire. Or, quelle n'est pas ma joie de découvrir que vous êtes exactement dans les mêmes dispositions et que vous êtes de cet avis.
Moi, je disais ça.
Pourquoi est-ce un auteur comique ?
Évidemment. C'est un auteur comique, d'abord parce que, vous savez, il y a des portraits étonnants. Il y a les portraits de Charlus. Charlus est un personnage incroyable dont on peut parler peut-être ici, aujourd'hui. Charlus est plus fort que tous les autres parce que Charlus vit pendant la Première Guerre mondiale. Et dans la Première Guerre mondiale, les Allemands n'ont pas occupé la totalité de la France. Mais Charlus est un collaborateur avant que les Allemands soient arrivés. C'est-à-dire qu'il est pour les Allemands alors qu'ils n'ont pas encore gagné. Et alors Charlus, qui est riche, qui est puissant, qui est le sommet de la société, tombe absolument au dernier niveau de la société. Tout le monde lui tourne le dos. Et le portrait de ces renversements, le portrait des Guermantes, le portrait de Charlus, le portrait de Madame de Verdurin, tout ça, c'est irrésistible. Et alors, il y a un grand amour qui est l'amour de Swann pour Odette. Et tout le monde connaît le mot de Swann à propos d'Odette à la fin de son aventure avec Odette, quand finalement il l'a épousée. Et il dit... Je vous dis, c'est comique, mais c'est très très triste, mais c'est toute la vie. Il dit dire que j'ai perdu ma vie pour une femme qui n'était pas mon genre. Des formules comme ça, vous en avez par centaines. Et alors, aussi souvent, on dit que Proust, c'est des longues phrases difficiles. C'est vrai, il y a des longues phrases difficiles. Mais il y a aussi des phrases courtes et merveilleuses et d'une cruauté incroyable quand il donne une définition de l'amour que je recommande beaucoup, qui est « J'appelle ici amour une torture réciproque ». Ça rappelle la définition de l'amour par Céline. que vous connaissez, Jean-Marie.
Non.
C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'infini mis à la disposition des caniches. Qui est pas mal non plus. Enfin, pour ne pas rester à ce niveau-là, je voudrais en citer une très courte aussi de Proust qui me paraît sublime. Et... L'amour, c'est l'espace et le temps rendu sensible au cœur.
C'est bien aussi.
Ça, c'est vraiment.
C'est bien aussi.
Alors, Proust, évidemment. Vous savez, quand j'ai commencé à lire Proust, peut-être un peu jeune, j'avais commencé à le lire à 14 ans, et ça m'est tombé les mains. Ça m'est tombé les mains, ça m'a ennuyé à périr, et après, évidemment, j'ai adoré ça. Et Proust est un de ses auteurs, je dirais, comme Chateaubriand, probablement, comme Homère pour Madame de Romilly, comme Saint-Simon pour beaucoup. C'est une espèce de drogue. On est intoxiqué quand on lit. On vit dans l'univers de Saint-Simon, on vit dans l'univers d'Homère, on vit dans l'univers de Chateaubriand, on vit dans l'univers de Proust et on ne peut plus en sortir. Et alors on voit tout le... C'est tragique, Proust est très très violent. Vous savez, c'était un garçon très très poli, trop flatteur, courant. Après toutes les duchesses, vous savez ça, il était d'un snobisme incroyable et d'une violence et d'une cruauté incroyable. Et d'un comique qui se mêle sans cesse à la cruauté. Ah ben quoi, c'est un monde. C'est un monde. Et tout grand écrivain est évidemment un monde. C'est la différence entre les grands écrivains et ceux qui écrivent des petits livres.
Tout à l'heure, vous disiez que dans le choix que vous avez fait, les considérations politiques n'ont joué aucun rôle. Et en cela, n'est-ce pas, vous vous distinguiez par exemple de quelqu'un que vous admirez, qui est Kléber Hédens. Justement, oui. Ça ne joue apparemment aucun rôle, puisque un des écrivains que vous aimez particulièrement, c'est Aragon, qui, que je sache, n'était pas tout à fait du même bord politique que vous. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous admirez tant Aragon ?
Alors, je vais vous répondre d'un mot. Souvent, on me dit, j'ai par exemple des amis de gauche. J'en ai, oui, absolument. J'ai des amis de gauche qui me reprochent d'être indulgent pour Aragon. Et j'ai un ami que j'aime beaucoup, qui est très puissant aujourd'hui, qui m'a envoyé un petit extrait d'Aragon, qui est sorti d'un ouvrage dont j'ai dit beaucoup de bien, qui est très beau d'ailleurs, qui s'appelle Oural Oural. Et j'aime beaucoup Oural Oural, qui est ta poésie ultra engagée. Magnitogorsk, est-ce toi ? Oui, Magnitogorsk, c'est toi et c'est moi. C'est magnifique. Et il m'a envoyé un petit extrait de ça qui s'appelle « La photographie » et qui est en effet un texte assez ignoble où on voit l'exécution de la famille impériale vue par Aragon. Et c'est sous l'image d'une photographie. Et alors on dit au Tsarevitch un peu plus, reculez un peu pour qu'on puisse mieux le fusiller. Qui est évidemment un texte qui n'est pas très, 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 très à l'éloge d'Aragon. Et quand on me dit des choses comme ça, quand on me dit qu'il a pris violemment parti pour Staline, qu'il connaissait l'existence du goulag, qu'il a caché tout ça, qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux que répondre par l'Aragon. Et je réponds par... puisqu'on parlait de Rancé, tenez, au cloître que Rancé maintenant disparaisse. Il n'a de prix pour nous que dans ce seul moment et dans ce seul regard qu'il jette à sa maîtresse qui contient toutes les détresses. Le feu du ciel volé brûle éternellement. Ou encore, je suis plein du silence assourdissant d'aimer. Ou encore, ô mon jardin, d'eau fraîche et d'ombre, ma danse d'être, mon cœur sombre, mon ciel des étoiles sans nombre, ma barque au loin, douce à ramer. Voilà pourquoi j'aime Aragon.
Vous dites qu'il connaissait probablement l'existence du goulag, vous rappelez qu'il a encensé Staline, etc. Et Et puis vous dites, eh bien, quand on me reproche d'aimer Aragon, je réponds en citant des vers d'Aragon, comme vous venez de le faire. Est-ce que ça signifie que vous pensez qu'un écrivain, à partir du moment où il a un talent et probablement du génie, c'était peut-être le cas d'Aragon, eh bien, tous ses errements en matière, toutes ses erreurs et ses égarements en matière politique, par exemple, ça ne compte pas?
Alors, je crois qu'il faut faire une distinction entre l'écrivain et son œuvre. Je suis farouchement dans la bataille entre Sainte-Beuve et Proust. Je suis farouchement du côté de Proust. Sainte-Beuve disait, on explique un auteur par sa vie. Et Proust disait, celui qui écrit une œuvre est tout à fait différent de l'homme social.
Les œuvres sont le produit d'un autre moi.
C'est le produit d'un autre moi. D'ailleurs, vous en trouvez des traces dans Comédie de Lévy, où il parle des différents mois qui se battent entre eux. Et prenons un autre exemple qu'Aragon. Aragon était communiste, je n'étais pas communiste, je l'admire. Prenons un autre exemple, Paul Morand. Paul Morand, mon père, qui était un peu rigoureux, mon père était très 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 mondain et très 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 rigoureux, et mon père ne serrait pas la main à Paul Morand. Et évidemment, Paul Morand ne s'est pas très bien conduit pendant la guerre. Et en même temps, il a écrit des nouvelles qui sont à peu près parfaites. Mais encore, le cas de Paul Morand est peut-être... Il y a pire. C'est le cas de Céline. Céline a écrit « Je suis très ami d'Hitler ». Et je souhaite beaucoup sa victoire. Alors, Céline est quelqu'un à qui je ne pourrais pas serrer la main. Et en même temps, c'est un très grand écrivain. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Je n'y peux rien. C'est un grand écrivain. Et c'est un homme dont tout me sépare. Et je refuserais probablement d'être assis à la même table que Céline. Mais ce n'est pas une raison pour que je ne le mette pas dans une autre histoire de la littérature française. J'appartiens à une famille de parlementaires et de serviteurs de l'État. Alors, dans ma famille, on était préfet en général, ou on était diplomate. Et je sais que ma famille... je vais encore parler un peu de ma famille. Elle a été très, très contente quand je suis entré à l'école normale en se disant, c'est épatant, il va devenir inspecteur des finances ou conseiller d'État, comme c'est bien. Et puis, quand j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, ça a fait très, très mauvais effet. Et quand je me suis intéressé à la littérature, ça a été consternant. C'est pas la littérature pour ma famille, c'était à peu près les voyous. C'est pas tout à fait faux, remarquez. Les écrivains sont très proches des voyous. Mais évidemment, j'ai beaucoup aimé la littérature. Pourquoi? Je pense que ça a commencé par les, vous savez, ça a commencé par les bandes dessinées. J'ai follement aimé, quand j'avais 6 ans ou 7 ans, j'ai beaucoup aimé les bandes dessinées. J'habitais en Allemagne à ce moment-là, parce que mon père était diplomate, et j'ai commencé par des bandes dessinées allemandes. Je sais pas si quelqu'un connaît l'Allemagne ici, mais il y avait Max und Moritz ou Struffelpeter, c'était épatant. Et puis après, je suis passé à Bico. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent encore Bico. Bico était président du club des Rentemplants. Il avait une sœur qui s'appelait Suzy. Il avait un ami qui s'appelait Auguste et un autre qui s'appelait Ernest. Et je me rappelle que je hurlais de rire quand il arrivait. On lui donnait un petit costume de velours qu'il détestait. Et alors il arrivait dans le salon, il ne voulait pas porter son costume de velours. Et il disait à Suzy et à sa mère, « Si tu veux me forcer à le dire, je dirai à ces dames, » et il montrait les invités de sa mère, « que tu as découpé mon costume dans les rideaux du salon. » Évidemment, aujourd'hui, ça me fait moins rire qu'à l'époque, mais à l'époque, ça me faisait mourir de rire. Et puis, j'ai beaucoup aimé Bibi Fricotin, Les Pieds Nickelés, j'ai adoré Les Pieds Nickelés. Et puis, j'ai aimé beaucoup Arsène Lupin, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, j'ai aimé, évidemment, La Folie, Dumas. Actuellement, Dumas n'est pas dans ce livre, mais il sera dans le prochain, naturellement. J'ai beaucoup aimé Stendhal, et puis alors tout le reste est venu tout venant, et de fil en aiguille. Et évidemment, il m'arrive encore de découvrir de bons livres, à condition de tourner le dos aux livres dont on parle, on arrive encore à trouver de bons livres. Alors j'ai commencé la lecture très très tôt. Je me rappelle que quand j'étais enfant, on me reprochait de lire n'importe quoi. On me disait « Ah, mais tu lis les affiches sur les murs ». Je lisais les ordonnances des médecins. Je me rappelle que je lisais tout. Je lisais les ordonnances des médecins, je me rappelle, et les choses pharmaceutiques. J'ai lu très, très tôt. Mais j'ai écrit très, très tard. J'ai écrit très, très tard. J'ai beaucoup d'amis qui ont écrit des tragédies classiques à 12 ans, des poèmes à 8 ans. Moi, j'ai commencé à écrire à 30 ans. Alors là, pour la raison inverse de cette histoire de la littérature, non pas parce que je ne connaissais pas les textes, mais parce que je les connaissais. J'étais normalien, je connaissais un peu Eschyle, Sophocle, Rabelais, Corneille, et je me disais que c'était inutile d'écrire. Et je me rappelle que la première rencontre que j'ai faite avec quelqu'un que vous connaissez, dont vous vous souvenez, qui était Pompidou, et que j'ai connu non pas du tout parce qu'il était Premier ministre, mais parce qu'il était normalien, et je me rappelle la première phrase que m'a dit Pompidou. Il m'a dit sur un ton inimitable, « Alors, vous écrivez. » Et ça voulait dire « Quel culot vous avez d'écrit !» Et je dois vous dire qu'après, quand il a été, pardonnez cet accès de modestie, quand il a été président de la République, lui me l'a raconté, deux ministres me l'ont raconté, il est arrivé un jour au Conseil des ministres et on lui a dit « Monsieur le Président, il y a deux questions urgentes ». Et il a répondu « Il n'y a qu'une question urgente, c'est de lire La gloire de l'Empire ». Merci beaucoup.
Vous parlez de vos débuts en littérature. Morand, que vous évoquiez tout à l'heure, avait été choqué par vos premiers livres, ou par l'un de vos premiers livres.
J'avais écrit un livre très mauvais, que je ne vous conseille pas de lire, qui s'appelle « Les illusions de la mer », c'est détestable. Et,
très beau titre, en tout cas. Hein? Le titre est très beau.
Le titre est assez bien. Le titre est tiré, évidemment, de Toulet. « Et grave ses mots sur le sable, le rêve de l'homme est semblable aux illusions de la mer ». Et il y avait deux pages un peu osées. Et Morand avait écrit des livres très osés. Il avait écrit un livre qui s'appelait « Hécate et ses chiens », qui était un livre très, très osé, mais où les choses n'étaient pas dites, n'est-ce pas? Et il me reprochait d'avoir dit des choses crûment dans ce livre. Et la deuxième chose qu'il me reprochait, et c'était amusant dans le cas de Morand, c'était le journalisme. Si quelqu'un fait entrer le journalisme dans la littérature, c'est Paul Morand. Il n'y a qu'à regarder les titres. « Rien que la terre », c'est un titre de journaliste. « Ouvert la nuit », c'est un titre de journaliste. Mais il faisait entrer le journalisme dans la littérature. Et il me reprochait de m'éparpiller dans les journaux. Et chaque fois que je le voyais, chaque fois, il me disait « Surtout pas de pornographie, surtout pas de journalisme. » À tort ou à raison, je considère que la seule façon, en tout cas la seule façon qui m'intéresse, de défendre la langue française, à laquelle je suis attaché, rien que ce livre le prouverait, la seule façon de défendre la langue française, et je l'ai dit tout à l'heure quand je parlais de l'entre-deux-guerres, c'est d'écrire de bons livres. C'est d'écrire de bons livres. C'est d'écrire de bonnes chansons, d'écrire de bonnes pièces de théâtre, de faire de bons films. Et je crois profondément qu'il n'y a pas de langue qui puisse être défendue s'il n'y a pas une politique de la création. Alors je ne dis pas qu'il ne faille pas avoir une politique de défense de la langue, avec des organismes, avec des attachés culturels, avec des réseaux. Je ne le nie pas. Mais je laisserai à d'autres le soin de faire ça et je recommanderai d'aider le plus possible la création française. Je ne suis pas sûr que le théâtre d'aujourd'hui, que le cinéma d'aujourd'hui, que la chanson d'aujourd'hui, que la littérature d'aujourd'hui soit en tout point aussi bonne que celle d'il y a, je ne parle pas d'il y a un siècle, mais que celle d'il y a 50 ans. Et je crois qu'il faut absolument défendre la création.
J'ai entendu quelqu'un, mais peut-être c'était vous, je ne sais pas, qui disait récemment « La langue française va très bien dans le monde, sauf en France. »
Oui, il y a la querelle, vous savez, il y a la querelle. Vous m'auriez interrogé il y a 3 ans, il y aurait un problème qui aurait surgi inévitablement. Et mon Dieu, je crois que maintenant, il a disparu, c'est la réforme de l'orthographe? Où est-il ce problème? Vous rappelez l'agitation des esprits? Je me rappelle à l'Académie, on se donnait presque sur la gueule, enfin si j'ose dire. Aujourd'hui, plus personne ne parle de réforme de l'orthographe. Alors aujourd'hui, évidemment, le problème, c'est, en France, c'est l'invasion du français par la langue anglaise. Soyez sûr que je ne suis pas pour parler de waiting list, puisqu'il y a liste d'attente. Et je ne suis pas pour le snobisme anglo-saxon. Mais je vous avoue que parking ou week-end ne m'empêche pas de dormir. Ça ne m'empêche pas de dormir. Nous avons eu spaghetti, nous avons eu opéra, nous avons eu sofa, nous avons eu algèbre, nous avons eu abricot. Tout ça sont des mots étrangers et nous les avons parfaitement assimilés. Et quand on est en bonne santé, on ne craint pas les microbes. On les craint quand on est faible. Alors je sais bien qu'il y a un médecin à qui une dame du monde dit « Docteur, je ne crois pas aux microbes ». Et le docteur lui répond « Madame, qu'est-ce que vous voulez que ça leur fasse ?» Mais tout de même, je crois qu'un organisme en bonne santé ne s'inquiète pas à chaque moment de ce qui se passe autour de lui. Nous sommes assez forts pour accueillir des mots étrangers. Je dois vous dire que je suis pour la libre circulation des idées. Je suis aussi dans des mesures qu'il faut naturellement limiter pour la libre circulation des personnes et je suis pour la libre circulation des mots. Après tout, en anglais, les Anglais parlent très volontiers d'une brunette et de rendez-vous. Et vous savez tous que flirt, qui est un horrible emprunt à l'anglais, est en réalité un emprunt anglais à la France. Vous savez tous que fleurette est l'origine de flirt, et donc c'est un boomerang qui nous revient. Alors, ne nous préoccupons pas trop de savoir si y a des devantures de magasins qui emploient des mots anglais. Bien sûr, c'est quelquefois ridicule, et peut-être que mon ami Dutour a raison de le dénoncer, mais j'aimerais mieux qu'on fasse de belles chansons et des bons films, et à la rigueur qu'on écrive de bons livres, que de refuser de dormir parce qu'il y a des mots anglais en France.
Tout à l'heure, vous disiez que le roman est peut-être... Et peut-être condamné, et d'ailleurs en raison de sa prolifération excessive. Et à la fin de la préface, là, vous dites, en un temps où les perspectives et les hiérarchies changent très vite, en un temps où la littérature elle-même, dans son ensemble, est contestée et menacée par la montée de quelque chose d'obscur qui ressemble à la barbarie, ce mince volume, etc. Vous pensez vraiment que la littérature est menacée par quelque chose d'obscur? Et qu'est-ce que c'est que ce quelque chose d'obscur?
Je pense d'abord que le roman, naturellement, est menacé. Le roman périra. Le roman périra. Tout périt. Le roman est très récent. Vous savez tous que le roman commence, vous savez tous que la littérature commence par deux genres qui sont des invocations au dieu et l'épopée. La Bhagavad Gita, l'Odyssée, des proverbes religieux. Ensuite, vous avez la poésie. Ensuite, vous avez la tragédie. Ensuite, vous avez le sonnet. Le roman, c'est très, très récent. Le roman de la rose n'est pas un roman, comme vous savez. Le cycle du roi Arthur, c'est les romans. Et il y a des romans grecs. Mais enfin, le roman, vous voyez bien avec qui commence le roman. Le roman commence avec deux génies qui ne meurent pas le même jour, mais c'est une parenthèse. Est-ce que vous savez que Shakespeare et Cervantes meurent le même jour? Vous ne savez pas ça? Ils ne meurent pas le même jour, ils meurent à la même date. Je ne peux malheureusement pas vous la dire. C'est, mettons, je dis n'importe quoi, le 24 octobre 1610, ou le 24 avril 1610. Shakespeare et Cervantes meurent tous les deux le 24 avril 1610. Mais l'un meurt le samedi 24 avril 1610 et l'autre meurt le mardi 24 avril 1610. Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas le même calendrier en Angleterre et en Espagne. Que l'Espagne a déjà adopté le calendrier grégorien, et que l'Angleterre est encore au calendrier julien. Mais il meurt le même jour. En tout cas, ce n'est pas de ces deux-là que je voulais parler, les deux créateurs du grand monde moderne. Et d'ailleurs, il est remarquable que ce soit deux théoriciens de la dérision, sont Rabelais et Cervantes. Et le roman est évidemment un genre de la dérision. Le roman commence. Enfin, je grossis un peu les traits. Le roman commence quand on ne croit plus à Dieu. Tant qu'on croit à Dieu, on n'écrit pas de roman. D'ailleurs, Pascal n'a jamais ouvert un roman et Bossuet les condamne formellement. Et le roman mourra, il n'y a aucun doute. On nous annonce que le roman mourra chaque année. Naturellement, il ne va pas mourir cette année. Mais je doute fort qu'il y ait encore des romans dans 500 ans. D'ailleurs, je doute fort qu'il y ait encore des livres dans 500 ans. Naturellement, il y aura des livres l'année prochaine et dans 100 ans et dans 200 ans. Mais dans 500 ans ou dans 1000 ans, il n'y aura plus de livres. N'en doutez pas, il y aura autre chose. Vous voyez déjà Internet qui arrive. Bon, mais est-ce que ça me fait très peur? La barbarie à laquelle je fais allusion, c'est pas du tout Internet. Moi, je suis un réactionnaire. Je me sers de crayon, soit du papier avec une gomme. Mais je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on écrive comme mes camarades sur Internet. Je n'y vois aucun inconvénient. Ce n'est pas ça que j'appellerais la barbarie. Ce que j'appelle la barbarie, c'est d'un côté ou de l'autre la montée de l'intolérance. Nous vivons dans un siècle où on a brûlé les livres. C'est très rare qu'on brûle les livres. Il y a eu l'Inquisition qui a brûlé les livres, mais ça ne lui a pas porté bonheur. Et un siècle qui a brûlé les livres ferait bien de se méfier. Et pour ma part, la vertu que je mettrais au premier rang des vertus politiques, je crois qu'il y a des vertus plus importantes. Je suis persuadé que la vérité et la charité sont plus importantes. Mais parmi les vertus politiques, la première vertu que je mettrais, c'est la tolérance. Et cette tolérance, je crois qu'il faut que nous la défendions et de tous les côtés. Et la deuxième chose, c'est qu'on m'a beaucoup reproché que mes romans n'étaient pas des romans. Et que j'ai été longtemps, bon, encore un accès de modestie, j'ai été longtemps à contre-temps, à contre-courant de la mode. Quand j'ai commencé à écrire, régnait Sartre et régnait le nouveau roman. Et je n'ai pas du tout été dans ce sens-là. J'ai écrit tout à fait autre chose. Mais peut-être que j'ai contribué avec un livre qui s'appelait « La gloire de l'Empire » à créer un genre littéraire qui n'existait pas, qui était l'histoire-fiction. Et après, il y a eu l'économie-fiction, la psychologie-fiction. Le Juif errant, la douane de mer et presque rien sur presque tout, j'ai peut-être disons en gros comme ça, une espèce de d'irruption des sciences humaines dans le roman. Et si ces livres ont eu une sorte de succès d'ailleurs inexplicable, c'est que c'était non pas l'irruption, comme disait Malraux de Faulkner, du roman policier dans la tragédie classique, mais l'irruption des sciences humaines dans le roman. Et évidemment, notre époque est tentée par les sciences humaines et elle ne veut pas abandonner tout à fait le romanesque. Et c'est probablement ça qui a fait le succès de ces livres.
Vous disiez que vous avez mis dans ce livre des écrivains dont vous étiez plus ou moins proche, et puis que vous parliez de Camus tout à l'heure. Vous disiez que, par exemple, vous n'étiez pas sûr que La Peste soit le chef-d'œuvre qu'on y a vu à un certain moment. Mais Sartre, vous n'avez pas pu le mettre dans le livre. Sartre, ça ne passe pas vraiment. Hein.
Alors Sartre, je le mettrai sûrement dans le prochain volume. Et je pense que Sartre est un auteur surfait. Oui, je pense qu'il est surfait. Je pense que le sursis est illisible. Je pense qu'il a écrit de belles nouvelles. Le mur est une très belle nouvelle. L'enfance d'un chef est une très belle nouvelle, malheureusement gâchée par une faute qu'on pardonnerait difficilement à un débutant d'aujourd'hui. Il montre un surréaliste qui est homosexuel. Vous savez que Breton condamnait absolument l'homosexualité. Et l'image de l'enfant d'un chef est tout à fait fausse psychologiquement. Il a écrit un livre admirable qui s'appelle « Les mots ». Malheureusement, il l'a renié. Alors, le reste, il était... Naturellement, il était merveilleusement intelligent, bien sûr. Il a écrit des romans, il a écrit des pièces de théâtre, il a écrit de la philosophie. Je crois que les romans, c'est moins bien que... Je dirais pas que c'est moins bien que Gide. Bien sûr que c'est moins bien que Gide. Je dirais que c'est moins bien que... C'est moins bien que Jules Romain. Moins bien que Mauriac. Je dirais que la philosophie, c'est moins bien que Heidegger et Jaspers. Et je dirais que les pièces de théâtre, on aura du mal à s'en souvenir dans 50 ans, dans 30 ans. Alors je dirais qu'il a écrit deux jolies nouvelles et un livre de mémoire réussi qu'il a malheureusement renié.
On m'a recommandé...
Il a d'ailleurs dit quand même... il a fait deux choses. C'est vrai que je suis partial parce qu'il a fait deux choses que je ne peux pas accepter. La première, c'est qu'il a dit que Staline n'était pas un dictateur, mais que De Gaulle en était un. Bon, tout de même. Et la deuxième, pire encore, il a pissé sur la tombe de Chateaubriand. C'est ça le fond de l'affaire.
Je crois que c'est. Je voulais qu'on en arrive à ça. Et vous l'avez dit.